بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، dans le dernier درس on a pris le dernier hadith du matn de Arba'in Nawawiyya qui était le 42e, qui était le hadith de Anas bin Malik qui montrait le grand mérite de l'espoir, de la vocation, de la demande de pardon et surtout du tawhid, qui sont la cause qu'Allah Azzawajal pardonne les fautes. Et le plus important de tout, c'est le tawhid. Car le muwahid, c'est celui qui l'adepte du tawhid, sa destination finale sera le Jannah. Inévitablement. Mais ce qui n'empêche pas qu'il puisse passer un temps en enfer pour expier des fautes qu'il aurait commises. Et on avait parlé du shirk asrar, est-ce que Allah le pardonne ou pas? Et il y a une divergence entre les ulama, entre certains qui disent que le shirk asrar, celui qui meurt de suite sans tawba, c'est comme les péchés, il se peut qu'Allah lui pardonne s'il veut. Et le qaul qui nous paraît comme étant le plus fort, c'est qu'Allah ne pardonne pas même shirk asrar, que celui qui meurt en commettant le shirk asrar sans tawba passera à temps au feu. Car le shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru in shirka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Que Allah ne pardonne pas quand on fait quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela qui veut. Et le verset, il est général. Ça rentre dans le grand et le petit. Plutôt le astaghfirullah, j'aime pas dire cette expression-là, on va dire le majeur et le mineur. Sauf que le mineur, d'accord, celui qui le commet, ne devient pas mécréant. Et on avait apporté une parole très importante à propos de ce shirk, wal'iyadhu billah, qui est le pire des péchés, le plus méconnu, et surtout, qui est le péché le plus commis par les gens dans le monde à longueur de temps, à longueur de journée. Pire que tout. D'accord? Vous ne verrez quasiment personne, hormis les muwahid, qui sont les gens les moins nombreux sur Terre, sans qu'ils commettent du shirk. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ comme encore le Ta'ala, et que la plupart ne croient pas en Allah, si ce n'est en lui associant quelque chose. طيب الآن نأخذ الحديث 43 et ces hadiths qui vont arriver jusqu'au 50e sont des hadiths qui ont été rajoutés par l'imam Ibn Rajab, ce ne sont pas ceux de An-Nawawi. An-Nawawi s'arrête à 42 et Ibn Rajab en a rajouté 8 pour compléter l'ensemble de ces hadiths pour englober tout le sens de la religion. Donc là il dit عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر متفق عليه. Donc il a dit النبي صلى الله عليه وسلم donnez les parts d'héritage aux ayants droit. Et ce qui restera de ses parts, alors elles reviennent à un homme. Et on traduira également par le mot masculin. Mais en français, ça ne se dit pas un homme masculin. Mais le mot zakar ici, il a un sens qu'on expliquera à la fin, Inch'Allah.
يقول هذا الحديث أصل في قسمة الموارث والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله.
Donc maintenant, ce hadith, c'est un hadith parmi les fondements dans les règles de l'héritage. D'accord? Et cet héritage, dans le Coran, les gens sont de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle « Ahl al-Furud », les gens de départ décrétés, déterminés. Ou il y a « Ahl al-Ta'sib », ce sont les gens qui héritent du reste des parts déterminées. Ces parts déterminées dans le Coran, elles sont citées à des gens particuliers. D'accord? On a As-Sulusan, les deux tiers. On a As-Sulus, qui est le tiers. On a le Sudus, qui est le sixième. On a le Nis, qui est la moitié. On a le Rub, qui est le quart. Et le Sumun, qui est le huitième. Dans le Coran, Allah Azzawajal a donné à différentes catégories de personnes une de ces parts-là. Ça dépend de la personne, ça dépend de la situation du défunt. S'il avait plusieurs femmes, s'il avait des enfants, ainsi de suite. Cet tafsir-là, on va pas rentrer dedans aujourd'hui. D'accord? L'auteur, lui, il en parle, il fait le tafsir, mais on va pas rentrer dedans parce que peut-être que pour vous, ce sera lourd aujourd'hui, alors qu'il est. Donc, on va juste résumer à quel sens. Que, mesalan, quelqu'un, il meurt et il laisse un héritage. Cet héritage, qu'il soit des biens, c'est-à-dire de l'argent, une somme d'argent, ou des terrains, ou de l'immobilier, ou voiture, ou autre chose, un notaire musulman va faire, va donner la valeur de tout cela. C'est-à-dire tout ce que, il va estimer combien la valeur de toutes ces choses-là ensemble. Et de là, il va voir les gens, les proches de la famille du défunt, qui est présent. Et parmi eux, des gens sont décrétés dans le Coran qu'ils ont une part, par exemple, un tel, il a le 8e. Un tel, il a le 6e de cette somme-là. Un tel, il a les 2/3, ainsi de suite. Donc le notaire, il va donner. Et ensuite, ce qui reste de cette somme-là, s'il en reste, alors elle revient, ça c'est les premiers là qu'on va parler là, c'est El Furud, les gens des parts déterminées. On leur donne obligatoirement leur part. D'accord ? On leur donne leur part déterminée. Ensuite, ce qui reste de l'argent, des biens, du défunt, là on voit ce qu'on appelle la Asaba. Les Asaba, ce sont les hommes de base proches du défunt. Son fils, son père, ses frères, ses oncles. Ainsi du côté du père, hein, du côté de l'homme, on va dire. Du côté de l'homme. D'accord, on appelle ça Asaba. D'ailleurs, ces Asaba, ce sont les mêmes qui font wali pour la femme parce qu'elle se marie. C'est eux, que du côté du père. Du côté de la mère, l'oncle maternel, tout ça, ils font pas wali de la femme, ils n'ont pas le droit. Donc ces Asaba, là, qu'on parle, ce sont les mêmes dans l'héritage. C'est les hommes proches du côté du père ou des gens mélangés à ces hommes-là. Donc eux, ils prennent ce qui reste. Et en général, s'il y a un fils, c'est lui qui prend tout. Une fois qu'on a donné la part à la mère, la part à des sœurs, ou ainsi de suite, parmi les gens des parts déterminées, s'il y a un fils, généralement le reste, c'est lui qui prend tout, en général. Après, on garde le père, le grand-père, les frères germains, comme on appelle les frères germains, c'est les frères de même parent. Les demi-frères, ceux qui sont d'un père différent ou d'une mère différente, ainsi de suite. Les oncles, leurs fils, on regarde qui est le plus proche au fur et à mesure. Mais s'il y a un fils, il prend tout. On va dire qu'il efface tout le monde. Ça, souvent, dans les héritages, il y a des guerres. Il y a même des meurtres qui se font. Vous voyez ? Donc voilà. Donc là, ce hadith, il dit ça, en fait. Une fois que les parts des gens décrétés ont été données, ce qui reste, ça reste à un homme. Qui est cet homme ? C'est un homme qui est parmi les Asaba. Et ensuite, il a dit quoi ? Zakar. Un homme est forcément masculin. D'accord ? Mais le mot Zakar, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, là ? Que ça peut être également un enfant. C'est pas forcément un adulte. C'est une précision. Parce que quand on dit homme, on pense tout de suite à un adulte. Ça se trouve, c'est un bébé. D'accord, l'homme, il est mort. Les parts ont été données à les gens des parts déterminées. Et il lui reste un bébé qui naît une heure après sa mort. Et bien, le bébé, là, c'est pas un homme. Et bien, c'est lui qui va arrêter le reste. Sans pour lui. D'accord ? Ainsi de suite. Donc, on regarde pas l'âge. On regarde le genre. C'est pour ça qu'il a dit « Fa'li aoulé rajoulin zakar ». Donc, le mot zakar, c'est pour confirmer que c'est pas forcément un adulte, mais que c'est une personne masculine. Parmi les gens à qui revient cette part-là. Et sachez que Allah Azawajal, dans sa grande hikmah, a donné une part à chacun avec justice et avec sagesse. Que les gens disent, ouais, pourquoi ceci, pourquoi cela? On dit, vous n'avez pas à dire pourquoi ceci, pourquoi cela. La part, c'est Allah Azawajal qui l'a décrété. Et il sait pourquoi. Par exemple, que le garçon aura droit à deux parts de la fille. Les gens disent, c'est injuste. Qui savent pas. Donc on dit pourquoi c'est injuste, c'est pas injuste. Car l'homme a plus de dépenses à faire que la femme. La femme à la base on dépense pour elle. Donc il est logique que l'homme ait plus d'argent que elle car il devra dépenser pour sa famille et la femme on dépense pour elle. Donc il serait justement inéquitable de donner autant à une femme qu'à un homme. Car au final la femme elle aura de l'argent et elle est tranquille et l'homme il aura autant d'argent qu'elle, il aura des dépenses en plus. Donc dans sa hikma, Allah Azawajal a donné plus à l'homme. Parce que l'homme a plus de charges. Sur lui. C'est tout. Vous voyez ? Non. Donc ensuite, dans le Coran, les trois versets qui parlent des parts du partage sont sur la tête de Nissa. D'accord ? Ça va pas plus que là. Au début, Allah Azawajal avait fait descendre un verset que... comment dirais-je ? les gens, les muhajirun, quand ils ont fait la hijra à Al-Medina, akha baynahum al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fratalisé entre les muhajir et les ansar. À tel point que eux héritaient des muhajirines. Alors qu'ils n'avaient pas de parenté à la base. Et pourtant, les frères, on va dire les fratanisés des ansar avec muhajirines, héritaient d'eux. Ensuite, ça a été abrogé. Que ceux qui héritent, ce sont les proches. C'est tout. Et quels proches? Muslims. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yaris muslim al-kafir ou al-kafir al-muslim. Que les muslims n'héritent pas du kafir et le kafir n'hérite pas des muslims. Si tes parents sont des koufars, tu n'hérites pas d'eux. Si toi tu es muslim et que tes parents sont des koufars, tu meurs avant eux, ils n'héritent pas de toi. D'accord? Et pareil pour les proches. Les koufars n'héritent pas des muslims. Maintenant, il y a une masala qu'on cite souvent, c'est ce qu'on appelle al-wasiyya. Al-wasiyya, c'est ce qu'on appelle le testament. Bien différencié en islam, différence entre al-iras ou al-wasiyya. Al-iras, c'est l'héritage décrété par l'islam. On n'a pas à le discuter. D'accord? Même demain, tu meurs, dans le Coran, c'est écrit qu'est-ce que ta sœur doit avoir, qu'est-ce que ta mère doit avoir. Il y a pas, t'as rien à écrire, à la base. Toi, par contre, tu peux écrire ce qu'on appelle une wasiyya, un testament, ce que tu donnes en plus. Et ta wasiyya, elle passe en premier. Ensuite, de ce qui reste, on donne les parts déterminées. Et ensuite, s'il reste, on donne aux asaba, aux hommes. Comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Donc, si demain tes parents koufars font une wasiya en disant, par exemple, mon fils, je lui donne tant de mes biens, tu peux prendre. Car c'est quoi? C'est pas un héritage. C'est un testament. C'est-à-dire, c'est lui qui a demandé que tu touches cet argent-là. Mais si demain tu meurs et que c'est l'État qui vient et que tu dis, ouais, tu hérites de ton père tant et tant et tant, tu dis, est-ce que c'est mon père qui a dit ça ou c'est vos lois à vous? C'est décrété par rapport aux les lois. Cet argent-là, je n'ai pas le droit de le prendre. Maintenant, si c'est mon père qui a écrit, là, je peux prendre. Car c'est une wasiya qui l'aura faite. Par contre, toi, tu ne peux faire de wasiya pour un kafir. D'accord? Tu peux faire un testament en léguant quelque chose à un kafir. Aussi, la wasiya, la takun, aksar min, thuluth. Que tu ne peux faire de testament, de don, qui est une valeur plus haute que celle du tiers de tes biens. Sans quoi tu vas léser tes héritiers. Tu ne donnes pas plus que le tiers de tes biens. Et ça, c'est le hadith de Saad ibn Abi Waqqas, lorsqu'il était sur le point, il pensait qu'il allait mourir. Et il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ana dhu malin, wa la yarithuni illa ibnatin li. Afa tasaddaq bi thulusi mali? Qala la. Wa qala bi shatr? Qala la. Qala wa thulus? Qala wa thulus kathir wa kabir. Il a dit, je suis un homme qui a beaucoup de biens. Et il pensait qu'il allait mourir. Il n'hérite de moi que ma fille, c'est tout. J'ai que ma fille. Donc est-ce que je peux faire don des deux tiers de mes biens? Le Messie a dit non. Il a dit la moitié? Il a dit non. Il a dit le tiers, il a dit le tiers, et même le tiers c'est beaucoup. Mais le tiers c'est permis. Il a dit pourquoi? Car il est meilleur pour toi que tu laisses tes enfants, tes héritiers riches, si tu es riche toi, que tu donnes des dons à autrui, que tes enfants se trouvent dans la difficulté par la suite. Donc ils sont prioritaires. Donne-leur à eux, en premier lieu. Vous voyez? Donc si jamais tu fais une wasiya avant de mourir, tu ne peux léguer plus du tiers de tes biens à autrui. Quand ça dit que c'était une dette, bien sûr on prend, quand demain on dit que tu meurs, t'as pas fait le hedge, tu n'as pas pu le faire mais tu avais les moyens, on prend les biens que t'as pour que quelqu'un fasse le hedge pour toi. T'avais une dette, on rembourse la dette. Tout ce qui est lié à la janaza qui demande d'être payé, on prend de tes biens pour payer tout cela. Après ce qui reste, on donne au chacun des gens des parts, elle et le furud, leur part. Et s'il reste encore, là c'est la asaba qui prennent. Donc le hadith il vient à ça. Une fois que l'argent était donné aux gens, aux ayants droit, décrété dans le Coran, c'est la asaba qui prennent, et à la base la asaba, c'est soit des hommes mélangés à certaines femmes comme les sœurs. Mais je dis le top 6, on va pas rentrer dedans. Sinon, ça va être trop long. Vous avez compris le hadith? En gros, la règle générale? Non? Tu veux un khulasa? Un exemple, demain, sallallahu alayhi wa sallam, tu viens mourir. Tu as des biens. D'accord? Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a nommé des gens à qui revient une part décrétée. On l'a dit au début. soit un deux tiers, soit un tiers, soit un quart, soit une moitié, soit un huitième. Ils sont tous nommés dans le Coran. Hein. On sait qui ils sont. Si jamais ces gens-là existent autour de toi et qu'ils sont présents, parce que des fois, tu peux ne pas les avoir. Tu peux être orphelin, tu peux avoir une seule sœur, tu peux avoir, tu vois. De ton argent qui reste, on donne à chacun cette part déterminée. Par exemple, ta fille, elle a droit au nisf. Elle a droit à la moitié. Si elle met ta argent, donne la moitié à ta fille. Par exemple. Si après, il reste quelque chose, d'accord, à ce moment-là, on regarde quoi ? Ce qu'on appelle les asaba, tes proches parmi les hommes. Et en mesure de la proximité, celui qui est le plus proche de toi, qui est présent, qui a droit, il prend tout le reste. Ou s'ils sont plusieurs, ils partagent, par exemple, plusieurs frères, ils partagent ce qui reste. Donc le hadith, il dit ce qui reste après que chacun ait reçu sa part déterminée, le reste c'est pour l'homme le plus proche, on va dire plutôt la personne masculine la plus proche de toi qui a droit.
À partir de quel moment tu fais ce...
Une fois que les gens départent, déterminés ont pris leur part.
Non, testament.
Testament, tu peux le faire dès maintenant. Mais ça, là, ce dont je te parle, là, t'as pas à l'écrire. Ça, c'est le Coran, c'est décrété. Tu peux pas le changer. Tu peux dire, par exemple, mon fils, je donne tant. T'as pas le droit. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la wasiya, toi, tu ne peux changer les parts de chacun. Tu peux juste donner, en plus, à des gens qui ne sont pas à la base de droit. Par exemple, tu dis, moi, mon fils, je donne tant et ma fille tant. Non, t'as pas le droit, toi. Leur part dans le Coran, elle est décrétée. T'as pas à la changer. Tu peux pas la changer. Hein? Mais ce que tu vois, tu veux écrire, c'est pour des gens qui, à la base, n'y ont pas droit. Par exemple, t'as, je sais pas, moi, t'as un frère, tu l'aimes bien, tu veux l'aider. Un tel, si je meurs, donne-lui tant. Tu connais une sœur veuve, elle est en galère. Par exemple, si je meurs avant Foulaina, donnez-lui tant. J'ai l'habitude de donner ça, d'accord ? Si je meurs, donnez-lui tant. Ma voiture, par exemple, je connais un frère, donnez-lui ma voiture, Mathalen. Tant que cela ne représente pas plus du tiers, le t'es bien. D'accord ? Ah, ok. Et ça, c'est valable pour les hommes, comme pour les femmes. Alain Nakhouz al-Hadith, Arabi wa al-Arba'in. 44e Hadith. Le verset, c'est « Oli zakali mislu haz al-unsayayn ». Ouais, tout à l'heure, je l'ai mal dit. « Oli zakali mislu haz al-unsayayn ». C'est-à-dire que l'homme a droit à deux fois ce que la fille a là. « An Aisha, radiyallahu anha, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a-riza'a tuharrim ma tuharrim e-wilada. » Muttafaqun alayhi. Donc, selon Aisha, elle a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'allaitement rend interdit ce que rend interdit l'enfantement. L'allaitement rendra interdit ce que rend interdit l'enfantement. يقول جاء في القرآن الكريم تحريم الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. Donc dans le Coran il est venu que nos mères qui nous ont allaités sont devenues interdites, c'est-à-dire au mariage à tout jamais, ainsi que nos sœurs, c'est-à-dire les filles de ces femmes qui nous ont allaités. Elles sont nos sœurs d'allaitement, donc elles nous sont interdites. Et après, c'était le verset qui dit cela, sur la tête de Nissa également. Donc maintenant, comment comprendre ce hadith ? Un enfant qui est allaité par une femme, il devient comme son fils, donc toutes les règles qu'il y a autour s'appliquent sur lui. Par exemple, toi, une femme t'a allaité bébé. Cette femme-là devient ta mère de lait. Son mari devient son père de lait. Ses filles, leurs filles, sont tes sœurs de lait. Ses fils sont tes frères de lait. Les parents de ses parents sont tes grands-pères de lait. Leurs frères et sœurs sont tes oncles et tantes de lait. Donc en fait, t'es comme leur enfant. Mais toi seulement. Alors c'est toi, t'as des frères à côté, ils n'ont pas été allaités. Non, eux, ils sont de côté. Il n'y a que toi. C'est-à-dire que les filles de ta mère de lait, tu peux les toucher. Tu peux rester, t'as mahram pour elles. Tu peux voyager avec elles et le mariage est interdit à tout jamais entre vous. En partie des femmes, avec une mariage est interdite ou jamais, donc tu peux les toucher, tu peux les voir, tu peux voyager avec elles, et ainsi de suite. Elles sont comme tes sœurs. D'accord ? Elles sont comme tes sœurs. Car les femmes en islam, il y a al-muharramat al-abad ou al-muharramat, on va dire al-maharim plutôt. Al-maharim il est al-abad ou al-maharim muwakkatan. Tu as celles qui sont interdites à tout jamais et celles qui sont interdites pour une cause temporairement. Celles qui sont interdites à tout jamais, elles, quoi qu'il arrive, voilà, le mariage est interdit avec elles dans l'absolu. Donc tu peux être seul avec elles, d'accord ? Tu peux les toucher, tu peux voir certaines parties, par exemple leurs cheveux, tout ça, comme tes sœurs. D'accord ? Et tu as celles qui sont interdites temporairement pour une raison. Celles-ci, tu ne peux les épouser, mais elles restent quand même étrangères à toi. Comme par exemple, une femme mariée. Une femme déjà mariée, elle t'est interdite, tu ne peux pas te marier avec elle, alors qu'elle est déjà mariée. Mais tu ne peux pas rester avec elle. Tu n'es pas un mahram pour elle. D'accord ? La tante de ta femme. Tant que tu es marié avec ta femme, tu ne peux te marier avec elle. Ou même la sœur de ta femme. Tu ne peux pas te marier avec deux sœurs en même temps. Donc la sœur de ta femme, tu es interdite, mais tu n'es pas un mahram pour elle. Tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas rester avec elle seule. Car si demain, ta femme venait, par exemple, tu venais à la divorcer ou à ce qu'elle meurt, tu peux te marier avec elle après. Tu auras le droit. Pareil de la tante. Si elle met ta femme là, actuellement, tu venais à la divorcer ou qu'elle meurt ou quoi, tu pourras prendre sa tante après. Mais les deux ensemble, tu n'as pas le droit. Même tome. Donc, ces femmes deviennent des maharim, soit par l'enfantement, par rapport au lien de parenté, d'accord ? Ou soit alors, par le mariage, c'est-à-dire que toi, Mathalen, ta belle-mère, du moment où tu te maries avec sa fille, d'accord ? Elle t'est devenue illicite à tout jamais. Même tu divorces sa fille ou elle meurt, la belle-mère, c'est fini. Elle était un mahram pour elle. Tu peux voyager avec elle, tu peux la toucher et tout. Par contre, ta belle-fille, tu te maries avec une femme, elle a une fille déjà. Ta belle-fille ne deviendra un mahram à tout jamais pour toi que lorsque tu auras consommé le mariage avec sa mère. D'accord ? Tu t'es marié avec une femme, elle a une fille. Tu as fait le aqd. Mais tu ne l'as pas encore touché. D'accord ? Elle, si jamais tu venais à divorcer la mère ou qu'elle venait à mourir avant que tu l'aies touchée, tu peux te marier avec la fille après. Par contre, la fille te marie avec elle, du fait que tu as fait un acte, c'est fini. Même si tu la touches pas, la mère, elle est devenue un mahram pour toi à tout jamais. Mais la mère, tu te maries avec ta mère, ta belle-fille deviendra un mahram à tout jamais quand tu auras consommé avec la mère. Là, à partir de ce moment-là, même si la mère elle meurt ou tu la divorces, la belle-fille, c'est la belle-fille, tu as un mahram pour elle. Tu peux la toucher, tu peux voyager avec elle. Quand j'ai touché, c'est toucher, serrer la main ou quoi, faire la bise, tu vois. Voyager avec elle, tu peux la voir, les cheveux, la tête découverte, tout ça. T'as mahram pour elle. Mais attention, t'as mahram, tu n'es pas un wali. Le mahram, tu n'es pas un wali. Tu ne peux pas la marier. T'es pas un asaba, toi. On a dit tout à l'heure, le seul qui peut marier la fille, c'est la asaba, c'est-à-dire le père, son frère, son grand-père, les oncles paternels, ainsi de suite. Toi, t'es frère de lait, mais t'es pas un asaba. T'es pas un wali pour elle pour la marier. Mais t'as mahram. Un peu comme son oncle maternel, par exemple. Son oncle maternel, le frère de sa mère, c'est un mahram pour elle, mais il ne peut pas la marier. D'accord ? Ben toi, c'est pareil. Ce qui l'a marié, c'est les asaba ou alors le juge. Ou alors en pays de couf, quand il n'y a pas de juge ni rien du tout, que les gens choisissent un homme de confiance fiable pour aller vers lui. Et lui, là, cet homme fiable, est prioritaire, des fatwas des ulama, à son oncle paternel. D'accord ? Donc voilà, en gros, ce hadith explique que l'allaitement rend interdit ce que rend interdit l'enfantement. Mais que pour l'enfant concerné. Pas pour tous ses frères et sœurs à lui. D'accord ? Comme j'explique, si toi t'étais allaité par une dame, c'est comme t'étais son fils. Donc tout le reste, ça va avec. Mais si jamais toi tu as des frères et sœurs qui n'ont pas été allaités par elle, eux ils sont étrangers, ils sont pas concernés par la famille de ta mère de lait. D'accord ? Ils sont pas concernés par ce jugement-là. C'est juste toi. Seulement toi et ta descendance. Toi, ta descendance sont des membres de cette famille, mais membres par allaitement. Et pour qu'un enfant soit considéré comme étant allaité, faut qu'il ait allaité 5 fois et de façon qu'il est rassasié. 5 radaat mujbi'at. 5 fois et qu'il était rassasié. Tamam ? Ça c'est la condition. Si c'était 4 fois, ça suffit pas. Il ne sera pas un enfant de lait. 3 fois non plus. Ou 5 fois mais légère, il n'a pas été rassasié, c'est pas pris en compte. Et là l'auteur il dit يقول كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم. Maintenant, l'allaitement du grand. Lui voit que le tahrim n'a pas lieu. Une femme qui allaite un enfant qui a plus de 2 ans, voire même un adulte. Car le rida'a, c'est fil hawlayn. 2 premières années. À partir de cela, le jugement échange. Après, il y a une divergence, mais le jugement échange. Donc, lui dit à partir de 2 ans, c'est un enfant de 3 ans, 4 ans, il voit même un adulte, il voit que c'est pas pris en compte. Et particulièrement l'adulte, parce qu'il y a eu une histoire avec Salim, qui était le Mawla, qui a été, on va dire, je sais pas si c'est un esclave affranchi ou quoi, ou de Hudayfa, Abu Hudayfa. C'est, en fait, c'était comme un enfant adoptif pour eux. D'accord ? Lui, Abu Hudayfa et sa femme, avaient un enfant avec eux. C'était pas leur enfant par affiliation. Mais ils l'ont éduqué depuis petit. Il a grandi avec eux. Et un jour, il est venu Baalir. Et Abu Hudayfa, il a dit, lui, il rentre chez ma femme, ça fait quelque chose, tu vois. On l'a éduqué, mais c'est pas, à la base, c'est pas moi de notre famille. C'est pas mahram pour ma femme. Donc, waqara fi nafsi shay. Tu vois. Il aimait pas le voir rentrer auprès de sa femme. Donc, de là, la personne lui a dit à sa femme de l'allaiter. Il était allaité. Donc, il est devenu son fils de lait. Et de Rolama, il dit, ça, c'est valable que pour lui. C'est un jugement exceptionnel que pour lui. D'accord ? Et les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam étaient là-dessus unanimes, à part Aïcha. Il y a quelqu'un qui a contredit ce qu'on a. Qui voit que même l'allaitement du grand, c'est valable. Les autres femmes, elles étaient toutes contre. Et lui, l'auteur, il dit quoi ? Qui voit l'avis que le grand, c'est pas valable. Il dit مما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية. Il a dit parce que le grand, quand tu l'allaites, ça va pas ça le nourrit pas en fait. T'as déjà vu du lait maternel, c'est comment? T'as déjà vu toi du lait maternel?
Du lait maternel.
Ouais. Ouais, t'es pas marié, mais peut-être t'as vu ta sœur, je sais pas. T'as déjà vu comment c'est?
C'est clair un peu.
Ouais, c'est clair. Ouais. C'est très liquide. Ouais. C'est pas comme du lait de vache, hein, ça a rien à voir. Ouais. Tu vois? C'est un goût un peu sucré. Je sais pas si t'as déjà goûté. En tout cas, si tu devais en boire, il faut que tu en boives je sais pas combien de litres pour être rassasié. Tu vois. Et donc l'auteur est dit, si une femme, il y a un exemple qui donne extrême, si une femme, par exemple, voudrait se débarrasser de son mari, elle prendrait son lait à elle, elle sait que maintenant il y a des trucs pour elle sort son lait d'elle-même, tu vois, pour mettre de côté. Elle met dans la nourriture de son mari 5 fois. Après, reste, tu ne me touches plus maintenant, t'es mon fils d'allaitement. C'est fini, tu ne me touches plus. Tu vois. Et il dit, peut pas faire ça. Donc lui, il voit que le grand, tu ne peux pas l'allaiter. C'est-à-dire, si tu l'allaites, même si on dit qu'il boit du lait de par exemple, je sais pas, moi, un mari boit le lait de sa femme. Tu vois, ils sont en rapport ou quoi, puis ça arrive qu'il en boive. Ça veut dire. Et ben ça, déjà pour qu'il en boive 5 fois qu'il soit rassasié, il faut vraiment qu'il y aille, tu vois. Et je crois pas qu'il y arriverait. Et quoi qu'il en soit, ça le rendrait interdit à sa femme. Donc c'est pas possible ça. Donc là, l'auteur lui dit que même le grand, c'est pas valable pour lui. Ça, c'est valable que pour l'enfant de 2 ans maximum. Donc ce qu'il faut retenir du hadith, c'est que l'allaitement rend interdit ce qui rend interdit l'enfantement pour l'enfant concerné et sa descendance. Par rapport à la famille, de lait. Par rapport à la mère, de lait. Et le père de lait. Ainsi de suite. Fahim tout ma'ala? Compris? Khalas. Fana ktahi biya d'accord al-yom. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Il y a une question là.